prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les rêves et les songes, troisième partie.
Allons continuer notre progression dans un sujet que nous avons déjà abordé dans les semaines précédentes. Et il s'agissait tout simplement des rêves et des visions. Alors on va ouvrir notre Bible et nous allons donc prendre un texte de référence. Il y en aura d'autres et même beaucoup d'autres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et au verset 14. Alors nous avions abordé la première fois les contrefaçons des rêves et des songes. La seconde fois, nous avions parlé des rêves et des songes venant authentiquement de Dieu et comment les discerner, comment les distinguer. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons lui donner une application avec des exemples bibliques. Parce que si on parle d'une chose, et si on trouvait des références dans la Bible, ce qui est mieux quand même. Donc, Actes, chapitre 2, verset 14. Alors c'est après la Pentecôte, comme aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres. » Alors j'ajoute parce qu'ils les entendaient parler en langue. Comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque, et ça c'est certainement un des plus beaux versets de la Bible, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette première base de réflexion. Nous avions évoqué le rêve psychique, celui qui naît de l'âme humaine, et si le rêve psychique et le produit de nos préoccupations et de nos agitations dans nos âmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui l'affirme, dans un texte particulier que nous avions médité. Le rêve, le songe, surnaturel, mais divin, qui est inspiré de Dieu, est porteur des dons du Saint-Esprit, et comme nous sommes le jour de la Pentecôte, nous allons parler, entre autres, de trois dons de l'Esprit, dont le moyen d'expression est, entre autres, le rêve, le songe, les visions. Principalement, les dons de révélation, dans leur classification, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et dans une moindre proportion, mais réelle, le discernement des esprits. Vous savez que dans les dons, Il y a les dons vocaux qui s'expriment dans nos cultes, nos réunions de prière. Il y a les dons de puissance qui accompagnent le témoignage de l'Évangile. Et il y a les dons de révélation. Nous allons, pour nous rafraîchir la mémoire, rappeler brièvement en quoi ils consistent. Et ensuite, nous passerons à des références et des exemples dans la Bible. La parole de sagesse. Écoutez bien, parce que je vais le passer rapidement, mais vous le retrouverez tout à l'heure. La parole de sagesse, qu'est-ce ? C'est une révélation surnaturelle de la pensée, de la volonté de Dieu qui concerne les faits ou des faits du temps et de l'éternité. C'est une formidable projection de ce que nous, les humains, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas connaître, mais que Dieu révèle, entre autres, par des songes, par des visions, par des rêves. Dieu ainsi révèle, et j'ajouterai ceci, partiellement, il ne donne pas tout, mais partiellement ses plans et ses intentions concernant un homme, concernant des hommes, concernant des peuples, concernant des nations, concernant l'histoire, et je rappelle que c'est une projection sur les événements de l'avenir ou des événements à venir. Et vous allez voir que c'est très riche. Alors à ce moment-là, Dieu communique à l'homme ainsi ses ordres et ses instructions qui émanent de sa connaissance parfaite. Parce que vous n'en doutez pas, Dieu sait tout. Et il peut ou non révéler si cela est utile, si cela sert à ses desseins. Eh bien, une partie nécessaire à la connaissance pour l'histoire, pour une préparation, pour une exhortation, pour un redressement, pour une correction. Parce que Dieu, qui a connaissance de toutes choses, connaît l'avenir. Nous, nous connaissons l'histoire, nous connaissons, pour ce qui nous concerne, notre passé, nous vivons le présent. Il va bientôt passer dans la rubrique histoire ou rubrique passé, mais une chose qui est certaine, c'est que nous ne connaissons pas notre avenir. Que sera demain ? C'est la grande question de l'humanité. Parce que tout cela reste encore voilé aux hommes. C'est une sagesse surnaturelle révélée par Dieu. Une parole qui s'accomplit. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est une parole qui s'accomplira. Parce que si Dieu a dit, il ne manquera pas à sa parole. Dieu tient parole. Ça, c'est la parole de sagesse. Vous comprendrez mieux tout à l'heure avec les exemples, si vous me permettez, à moins que vous ayez tout compris. La parole de connaissance, c'est une révélation semblable à la précédente, parce qu'elle est surnaturelle et divine, de certains faits présents, réels, actuels. C'est ça la parole de connaissance, de ce qui se passe là, au moment où je suis en train de vous parler. Mais qui est invisible, qui est inconnu, mais Dieu, à un moment donné, est capable de donner un flash, si vous permettez un terme moderne, pour révéler ce qui se passe. Donc, présent, réel, actuel, de la pensée de Dieu qu'il fait connaître à l'homme. Parce que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dans Hébreux, il nous est dit que nulle créature n'est cachée devant celui devant lequel nous devons rendre compte. Donc, il sait tout. Alors, pour les besoins de ses plans, il en trouve ce qui est vu par toutes les dimensions célestes, qui restent inconnues aux hommes. Alors, il ouvre une fenêtre pour faire apparaître momentanément, nous pourrions peut-être donner cet adverbe, quelques réalités cachées appartenant à la vie secrète d'un homme, à la vie secrète des hommes, à ce qui est secret dans certains états. Ce peut être des états d'âme, des états de cœur, des états de pensée, à travers des situations, à travers des faits et des gestes, des paroles et des propos qui sont dits dans le secret, mais qui peuvent venir à la lumière parce que Dieu a choisi de les révéler. des intentions dissimulées. Et là, dans la Bible, vous en avez plein, si vous vous souvenez bien. On pourrait dire que la parole de connaissance pourrait s'exprimer de cette manière. C'est un, écoutez bien le mot, c'est un savoir, ça c'est le verbe. Mais je le distingue en deux. C'est un savoir, qui veut dire, du latin, sapere. Avoir de la pénétration, avoir de la perspicacité, voir à travers l'invisible, percer tout ce qui est eh bien, occulte et opaque, et voir, c'est connaître réellement. C'est une connaissance, c'est voir connaîtement. Je ne sais pas seulement, mais je le vois. Donc, les deux, c'est le savoir, ce qui n'est pas visible. Ça, c'est la parole de connaissance. Troisième point, avant d'en arriver à nos exemples. Il y a le discernement des esprits. C'est une vision surnaturelle donnée par l'Esprit de Dieu du monde spirituel. Entendez par là du monde des esprits. Nous nous sommes renfermés dans les contingences de la matière. Mais il y a un autre monde naturellement qui permet de déceler la source, et ça c'est très important, de déceler la source et la nature des manifestations extraordinaires. Ça va ? J'explique. J'essaie de l'expliquer le plus simplement possible parce que ce n'est pas forcément facile. Mais c'est pour ça que quand nous avons parlé des révélations, quand nous avons parlé des rêves, des pseudo-rêves, les pseudo-visions, les pseudo-songes, c'est là où il faut véritablement qu'il y ait l'intervention de ce discernement des esprits, parce que je peux toujours dire à quelqu'un, j'ai rêvé pour toi. Dieu m'a donné un songe pour toi. Dieu m'a donné une vision pour toi. Alors il faut que ça passe au crible. Et il faut être bien assis et bien fondé sur la parole de Dieu, parce que l'Église est malade aujourd'hui du pseudo et des contrefaçons. Et on raconte n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Retour à la parole de Dieu. Affirmation de ce que Dieu dit. Et on tiendra debout jusqu'au dernier moment. Parce que vous savez qu'il y a une promesse dans le livre de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole. Alors à ce moment-là, je te garderai toi aussi. Sur la séduction qui va arriver sur les habitants du monde. Alors on a intérêt quand même à bien connaître notre Bible et ne pas se laisser compter n'importe quoi par des rêveurs, par des songeurs et par des visionnaires qui n'ont rien d'inspiration divine. Donc, la source et la nature des manifestations extraordinaires et connaître si elles sont divines, si elles sont charnelles ou si elles sont diaboliques et agir en conséquence. Alors maintenant, pour illustrer le sujet méconnu et difficile dans lequel eh bien, nous entrons maintenant, nous allons passer en revue les plus remarquables songes de l'Écriture et nous retrouverons en chacun les éléments dont je viens de parler, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, qui les définit et qui les caractérise. Vous avez votre Bible ? Vous voulez l'ouvrir avec moi ? On essaiera de ne pas prendre trop de temps parce qu'il y a pas mal de choses. Mais toujours est-il qu'on va regarder ça parce que c'est quand même très intéressant et ça fait partie de l'instruction. Abraham est le premier songeur de l'histoire biblique. Il y en a peut-être eu d'autres, mais en tous les cas, il nous a parlé de lui, visiblement premier. Il reçoit une parole de sagesse. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, parole de sagesse ? C'est anticipation dans l'avenir. Parole de sagesse. Dans Genèse, alors c'est là où on va tourner notre Bible, que je ne me trompe pas, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous, j'ai marqué mes pages. Parce que quand je mélange tout, ce n'est pas évident. Chapitre 15, verset 12, écoutez. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, alors songe, vision, rêve, en tous les cas, profond sommeil. et on avait déjà fait la caractéristique de ce que c'était. Hein. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation, etc., etc. Je vous laisse, finalement, eh bien là, voir vous-même ce qui... Mais vous connaissez l'histoire de la Bible. On sait que Abraham reçoit la révélation la nuit, et ça va l'effrayer dans quelque chose de terrible, de redoutable. Il va apprendre de Dieu que sa descendance sera exilée, elle sera opprimée et elle sera délivrée. Ça, c'est la projection dans un avenir qui n'existe pas encore, puisque rien n'est fait. Même les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont encore loin d'être là. Hein. Mais, parole de connaissance. Parole de sagesse. Ensuite, le deuxième qui apparaît, et c'est assez étonnant, c'est Abimélec, roi de Guérar, et figurez-vous que c'est un païen. Vous étiez imaginé, peut-être, que Dieu ne parlait qu'aux chrétiens ou aux croyants. Ben, vous allez voir qu'on va avoir des surprises, parce qu'il ne parle pas qu'à... Et il va parler quelquefois par des païens à des chrétiens, ou à des croyants plutôt, parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Abimélec, Genèse, chapitre 20. Versets 3 à 6. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. C'est vraiment très réjouissant. Hein. Mais il y a une raison. À cause de la femme que tu as enlevée. Et vous savez qui était cette femme. Car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? C'est un avertissement contre le péché. C'est une préservation du mal. C'est une parole de connaissance. C'est un fait actuel que Dieu révèle à Abimélec en disant « Attention, cette femme ne t'appartient pas, n'y touche pas. » Imaginez-vous dans le temps et l'immoralité de notre siècle, si Dieu agissait, oulolo, il aurait du travail. Hein. Troisième, Jacob. C'est le fameux rêve prophétique de l'échelle. 28, 12, Genèse 28, 12. Alors vous savez qu'il est en fuite, notre brave Jacob. De toute façon, ça a toujours été quelqu'un qui a fui. Jusqu'au jour où Dieu va l'arrêter et lui dit « Arrête de courir. Tu crois que je suis derrière toi, mais maintenant je suis devant toi. Alors t'arrêtes et tu m'écoutes. Tu m'obéis. » Mais ça, c'est Jacob. Genèse 28, 12. Et voilà, comme il était en fuite, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, du Septentrion au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et en ta postérité, et voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et j'exécuterai ce que je te dis. C'est une parole de sagesse. Dieu voit l'avenir. Il révèle l'avenir à ce moment-là. Parole de sagesse. On continue. Parole de sagesse signifiant et symbolisant la descente de Christ reliant le ciel à la terre. C'est l'annonce déjà de l'évangile, d'un évangile rédempteur, d'un évangile libérateur, d'un évangile de pardon, un évangile d'amour et un évangile qui entraînera les croyants dans l'éternité. Encore une parole en ce qui concerne Jacob. C'est une parole de connaissance, c'est-à-dire sur le moment. C'est l'histoire des songes. Il a eu un songe, des boucs et des brebis, dont le but était la délivrance de Laban, et l'enrichissement de Jacob. Genèse 31. Genèse 31, verset 10. Et voilà ce qu'il nous est dit. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de l'Éternel me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucles qui couvrent les brebis seront rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que t'as fait, Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Nous voyons que Dieu va prendre la délivrance d'un homme qui est persécuté par un autre homme, et Dieu va lui promettre une pleine et entière délivrance et une pleine et entière bénédiction. Parce que Dieu a vu ce qui se passe. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça faisait 21 ans que la persécution durait. Dieu a dit, maintenant ça y est, on arrive, c'est terminé. Dieu va délivrer. Dieu maintenant va se révéler à un païen. Et entre autres, c'est Laban. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein, vous savez. Et Laban est un païen, je tiens à le dire. Hein. Ce n'est pas un croyant. Dans Genèse, chapitre 31, je vous ai dit qu'on tournerait des pages de notre Bible. Hein. Mais c'est bien de dire les choses comme elles doivent être dites et appuyées par la parole de Dieu. 31, 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Dieu va arrêter un homme de faire du mal. Et Dieu est capable de le révéler. Et de lui révéler à lui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Dieu parle aux intéressés. Quelquefois, on a entendu dire, eh bien voilà, moi, tu sais, Dieu m'a parlé pour toi. Alors moi, je veux bien. Si ça confirme ce que Dieu m'a déjà dit, oui, je l'accepte. Si c'est une confirmation de ce que je sais. Mais si ça ne confirme pas, alors à ce moment-là, moi je n'accepte pas. Parce que c'est trop facile. On tombe à ce moment-là dans la manipulation. Et l'Église de Dieu n'est pas un exercice de manipulation. Restons sur la parole. Soyons déterminés dans la vérité que Dieu nous a donnée. Et Dieu nous a donné de l'intelligence et du bon sens. Et par-delà l'intelligence et le bon sens humain, il y a le bon sens et l'intelligence divine. Et ça, il faut le demander tous les jours, mes frères et sœurs. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et vous savez comment elle sera donnée. Simplement et sans reproche. C'est un avertissement que Dieu donne dans un songe à Laban, le païen, un avertissement direct pour arrêter un homme de faire le mal sur la personne d'un croyant. Et en autre terme, le croyant, eh bien, c'est Jacob. Nous en arrivons maintenant à quelqu'un très connu par rapport à la révélation, c'est Joseph. Joseph, quand il est jeune homme, et c'est un grand visionnaire, eh oui, on peut le dire comme ça, Genèse, chapitre 37. Heureusement que vous êtes venu avec votre Bible ce matin. Hein, parce que ça doit être catastrophique pour celui qui est venu avec le Coran. Hein. Là, vous n'allez pas vous y retrouver. Hein. Alors, chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors imaginez-vous les résultats. Hein. Je suis modeste. Verset 9 maintenant, parce que ça n'a pas été fait qu'une fois. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Vous savez, hein, si vous avez des révélations, allez le dire à tout le monde. Vous allez avoir des amis, mais vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil. Alors là, il a fait encore plus fort. Hein. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il encore que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi à terre ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il a fait comme Marie, qui gardait toutes ces choses au fond de son cœur en attendant que ça se révèle. Il avait raison. Mais ça ne lui a pas évité des souffrances, au pauvre Jacob. C'est une parole de sagesse, c'est-à-dire dans un avenir lointain ou un avenir. Les temps, le temps et les événements ont confirmé l'exactitude de la révélation au prix du rejet et de la haine. Et finalement, il y avait un plan de salut, parce que la vision qu'il a eue, c'était la vision de sa déportation, de son exil, de la manière dont ses frères l'ont honteusement vendu aux Madianites, aux Égyptiens, pendant des années, au moins 15 ans de prison, plus tout le reste qu'il a passé, mais dans une autre position, jusqu'au jour où véritablement, son père, sa mère, donc les étoiles, le soleil, la lune, sont venus se prosterner devant lui. Et là, c'est une très très belle histoire, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une histoire formidable. Parole de sagesse, Dieu a ouvert un petit coin du voile pour nous montrer, pour nous révéler que les hommes sont les dépositaires de tout cela, mais c'est Dieu qui est souverain. Il est capable de changer le mal en bien. Alors on va aller un peu plus loin en ce qui concerne Joseph. Joseph dans la prison. Je pourrais dire, mais dis donc, Seigneur, tu m'avais donné des songes et des visions, et puis si c'est pour me retrouver ici, c'est le contraire qui se produit, et ça c'est le paradoxe de Dieu. Mais il faut toujours passer par l'humiliation avant d'arriver à la gloire. Deux songes accordés par deux païens, le panetier et les chansons. Là, c'est pas Joseph qui a les songes, mais il entend les songes et il donne l'explication. Parce qu'avoir un songe, c'est une chose. Mais après, le plus difficile, c'est de pouvoir l'expliquer. C'est une parole de connaissance. Dans Genèse, chapitre 40, et au verset 5, « Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien. » Pour en recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils répondirent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Vous lirez la suite. Et c'est Joseph, dans ces circonstances épouvantables, de prisonnier déçu, parce qu'on peut être prisonnier, on est déçu, mais là, il était doublement déçu parce qu'il devait sortir, on l'avait mis encore 2 ans de plus. On l'avait oublié. Ou après. Maintenant, il faut que tout se concorde. Dans la même situation, c'est Pharaon qui va voir un songe. Dieu parle aux grands, il parle aux petits, mais il est capable de parler à tous ceux qui sont élevés en dignité et en pouvoir sur la terre. Et Pharaon, Genèse 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, oui, c'est ce que je disais, le pauvre Joseph a été oublié. Déception, je sers le Seigneur et Dieu m'oublie. Ah non. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se mirent à leur côté sur le bord du fleuve. Et Pharaon s'éveilla, il nous est dit, un peu plus loin. Alors, vous connaissez, vous l'avez lu plusieurs fois cette histoire. Mais Dieu se révèle à un monarque païen. Et même idolâtre au possible, puisqu'il se prenait lui-même pour Dieu. Donc c'était quand même quelque chose pour lui dire, écoute, mon petit Pharaon, il ne faut quand même pas que tu te fasses d'illusions, moi je suis au ciel et toi tu es sur la terre. Tu es un homme comme les autres et tu es un mortel. C'est bien, quelquefois ça ramène un peu les choses. Il s'agit de la vision des vaches maigres et des vaches grasses. Il y a dans les deux cas une parole de sagesse, parce que c'est l'avenir qui est projeté, une parole de connaissance, parce que c'est le temps qui est révélé. Le temps présent pour l'avenir. Joseph écoute le songe, c'est pas lui qui le reçoit, et Dieu va lui donner l'explication. Vous verrez, il y en a un autre grand qui s'appelle Daniel, qui va voir exactement la même chose. Et, par un concours de circonstances pour nous dire que Dieu est maître de tout, le prétentieux Joseph qui disait « La lune, le soleil et les étoiles se prosterneront devant moi », mais qui a eu le malheur de le dire un peu trop tôt, mais fallait-il que ça soit dit. Ce pauvre Joseph qui va se faire emmener comme un misérable esclave, mais Dieu sera quand même avec lui dans la prison, il ne sera pas délaissé puisqu'il va même prospérer dans une prison. Je vois comment on peut faire. Hein. C'est pas le lieu où on fait des affaires quand même. Hein. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Et là, nous voyons que par tout ce truchement de révélations, paroles de sagesse, paroles de connaissance, révélation au plus grand personnage de la terre à l'époque, Pharaon, nous voyons qu'à ce moment-là, il va y avoir une ascension que je qualifierais de spontanée, de fabuleuse. Il va se retrouver, notre Joseph, à la deuxième place du royaume de l'Empire d'Égypte. Et vous comprenez que le premier songe qu'il avait eu, on n'en est pas loin, hein, les épis qui se prosternent, le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent. Dieu a mis les choses en place. Mais ça ne s'est pas passé tout de suite, il a fallu, je vous dis, 15, 17, peut-être 20 ans. Alors si vous êtes pressé d'avoir des révélations, ce n'est pas le chronomètre qu'il vous faut au bras, hein, ni même la montre, hein. Il ne faut pas être pressé avec le Seigneur. Et il va donner à travers ça, puisqu'il a reçu une parole de sagesse. Mais la parole de sagesse, c'est aussi agir en sagesse devant les événements qui sont révélés sur l'avenir. Alors à ce moment-là, il va prendre des précautions et de sages dispositions contre la famine, parce que les vases grasses vont servir pendant 7 ans à engranger le blé de ce pays formidablement riche en production céréalière, et les 7 vaches maigres vont être le déclencheur de cette période de disette et de famine catastrophique. Et il va y avoir la réalisation du premier songe, le salut de la famille de Jacob, donc de Joseph, et la vénération des siens, oui. C'est extraordinaire, des choses comme ça. Vous savez à quoi ça sert maintenant ? C'est formidable ce que Dieu fait. Mais vu sous cet angle, c'est extraordinaire et c'est enthousiasmant. Et ce qui va surtout faire dire, comme plus tard Nebuchadnezzar, empereur de Babylone des Chaldéens, le grand pharaon d'Égypte qui restera à la première place, la seconde sera occupée par Joseph. Et écoutez ces paroles, elles sont extraordinaires. Parce qu'on vraiment, il me semble qu'elles sont à la gloire de Dieu, pas de Joseph. Il dira, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en parlant de Joseph, ayant en lui, attendez, hein, il dira pas l'esprit des dieux, mais l'esprit de Dieu. Dites donc, il était ébranlé dans ses convictions, hein, notre brave pharaon. Ayant en lui l'esprit de Dieu, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi et aussi sage. Et c'est là où il va recevoir son mandat de premier ministre. Je t'établirai sur ma maison. Alors peut-être que quelqu'un d'entre nous va avoir la vision de 2012 pour les élections présidentielles et pour lui-même. Ça vous dit rien, non ? Seigneur, oh, j'aimerais bien aller faire un petit tour à l'Élysée quand même. Surtout que c'est de tout repos. Parce que, permettez-moi de dire, que le songe divin, le songe surnaturel, introduit l'histoire. Avec un grand H. Introduit l'histoire. Et vous savez ce qui arrive aujourd'hui, là ? On parle de beaucoup de choses. On parle de mondialisation, on parle monétaire, financier, même sur le plan de tout ce qui peut être ces nuages noirs qui nous arrivent un petit peu d'Orient et d'Occident, enfin de tous les côtés. Mais vous croyez que tout ça, ça échappe au Seigneur ? Mais pas du tout. Vous savez, le Seigneur, il nous a dit, quand il voit les rois de la terre et les nations et les princes de la terre, vous savez ce qu'il nous a dit ? Dans le psaume 2, il nous a dit qu'il se rit. Faites donc tout ce que vous voulez, finalement mon plan s'accomplira. Et moi je crois que le plan de Dieu, il est réservé à des Abraham, il est réservé à des Jacob, à des Joseph, à bien d'autres. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Et nous, l'Église et les chrétiens, nous n'avons absolument pas à avoir aucune crainte. Nous sommes dans la main de Dieu. Nul ne les ravira de ma main. Nous sommes en lui. Nous lui appartenons, nous l'avons confessé dans la louange et nous recommencerons tout à l'heure, mais nous n'avons aucune crainte. Je suis à toi, Seigneur, et toi, tu es à moi. C'est rassurant, non ? Alors, quand vous allez regarder les informations, vous allez dire, Seigneur, ils ne vont pas avoir raison. C'est toi qui auras raison, en finale. Le songe divin introduit l'histoire. On va passer maintenant dans le livre des juges. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué ? C'est bon ? Livre des juges, alors il y en a d'autres, hein, mais bon, je passe parce qu'autrement... remarquez, demain on a une journée de congé supplémentaire. Moi je vous donne rendez-vous jusqu'à 21h demain soir. Ça vous va ? Sans manger, sans boire. Hein. Alors, Juges, chapitre 7, versets 13 à 15, c'est un texte que nous avons médité en culte il n'y a pas longtemps. Gédéon arriva, et voici un homme raconter à son camarade un songe. Je dois quand même préciser que l'homme en question, c'était un païen, c'était un madianite qui ne connaissait pas Dieu. Alors, il a eu un songe, il racontait à son camarade. Et il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Alors après, vous connaissez la suite. Elle est très intéressante. Deux soldats ennemis d'Israël. Ils sont là, une multitude, alors que Dieu a réduit l'armée d'Israël à 300 hommes, ils étaient 21 000, Dieu a dit c'est trop 21 000, avec 300 ça suffira bien. Et là ça va se réduire à un seul, puisque c'est Gédéon qui va finalement être le déclencheur de la victoire. Il y a là une parole de connaissance, un fait, dans le temps présent, est révélé pour motiver et faire reprendre courage et foi à un serviteur de Dieu qui porte le nom de Gédéon, pour obtenir la victoire et la délivrance sur ses ennemis. Un fait présent. Et ce païen va avoir l'image d'un pin qui va descendre de la montagne. Mais on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Une petite boule qui va descendre de la montagne et qui va renverser la tente. Mais c'est toutes les tentes, c'est toute l'armée. C'est toute la coalition des madianites et de tous ceux qui sont ennemis d'Israël. Ils sont des milliers et des milliers. Et à travers cette vision, l'explication est donnée, c'est l'épée de Gédéon. Finalement, nous sommes les plus nombreux, mais ils vont nous vaincre. C'est l'histoire de Goliath et de David dont nous avons parlé vendredi soir. Parole de connaissance. Et ça a donné du courage. Et à ce moment-là, Gédéon, qui était un grand timide, a trouvé du courage en disant, maintenant on rassemble l'armée. Alors il leur dit, voilà, vous allez y aller avec des cruches. Vous allez y aller avec des flambeaux. Et vous allez crier. Est-ce qu'on vit... Dites donc, hein. Est-ce que c'est comme ça qu'on vainc les ennemis? Mais comme c'était le plan de Dieu, ils ont été vaincus, les ennemis. Dieu donne des songes et des révélations à un enfant, Samuel. Parole de sagesse, donc, dans les choses qui vont venir. C'est le jugement, et ça c'est terrible, c'est le jugement sur la maison d'un serviteur de Dieu, laxiste et inconséquent, le prophète Élie. Je passe sur la référence, et 1 Samuel, vous pourrez le retrouver. Dieu parle par la bouche d'un prophète, mais officiellement prophète, c'est le prophète Nathan, qui reçoit l'ordre une nuit d'aller prévenir le roi David que le temple serait construit par son successeur Salomon. Vision, révélation. J'arrive à Salomon maintenant, parce que là c'est quelque chose de formidable. Salomon et son songe à Gabaon. Alors là on va ouvrir notre Bible rapidement. 1 roi, chapitre 3, c'est un des beaux passages de la Bible sur la prière. 1 roi 3, verset 5. Il nous est dit au verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. À Gabaon, verset 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité ceci et cela, mais il dira un peu plus loin. » Ce qu'il va, accorde, verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux et si grand et si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors il lui a donné tout ce qu'il a demandé, et tout ce qu'il n'a pas demandé, il l'a eu encore, par-dessus le marché. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça, vous le savez. Salomon et son songe. Salomon dit à Dieu, moi je suis un jeune roi, je n'ai pas d'expérience. J'ai bien vu ce que mon père a fait, c'était l'ami de Dieu, c'était ton ami, un homme au cœur droit, il a fait de grandes choses et tu l'as béni. Salomon dit, mais moi je veux aussi être béni, je veux aussi avoir un cœur sage et intelligent pour juger ce peuple tellement grand, tellement nombreux. Et nous voyons que Dieu va lui donner tout ce qu'il a demandé, il va lui donner la bénédiction. Dieu lui a parlé dans un songe. Mais c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Nous en aurions des choses à demander à Dieu. Mais si nous faisons la prière de Salomon, mais Dieu va nous exaucer. Si nous demandons la sagesse, si nous demandons le bon sens, le discernement, si nous demandons qu'il nous donne véritablement beaucoup de sagesse dans notre conduite, des choses spirituelles et surnaturelles, mais il va nous les donner. C'est tous les jours que nous avons besoin de demander ça. Salomon, encore. Il n'a pas toujours été bien inspiré, Salomon, mais il y a des fois, il nous donne au chapitre 9 et au verset 2. 1 roi 9, 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois après Gabaon, comme il lui était apparu précédemment à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai... toujours là mes yeux et mon cœur. » Voilà. C'est encore une révélation qui est donnée. Une parole de sagesse pour le devenir de la maison que Salomon a bâtie. Pour le sanctuaire de Dieu, à la gloire de Dieu, au témoignage de Dieu. C'est une parole de sagesse en réponse à la prière du roi. Implorant la grâce divine lors de la dédicace du temple. Quand nous faisons les choses... que nous les avons faits selon la volonté de Dieu, eh bien après il faut savoir en donner une direction utile et une direction à la gloire de Dieu. Alors Seigneur, je te demande, bénis maintenant cette maison, vous savez ce qui est arrivé, hein. L'espace a été rempli de la gloire du Seigneur, mais ça a été manifesté à travers un songe, encore une fois de plus. On en arrive, et je vais bientôt terminer, on en arrive au prophète Daniel. Alors lui, c'est un personnage. Un personnage, Daniel. Non comme songeur, ou comme rêveur, ou comme visionnaire, mais comme celui qui explique les rêves, les visions et les songes. Un explicateur. Bizarre. Hein. La première fois que ça lui arrive, il est jeune et il va avoir l'explication à donner au grand empereur, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'est la vision de la statue, et c'est quand même pas peu de choses. Tête d'or, les bras d'argent, torse, vous allez m'aider. Hein. Ensuite, il y a les reins, l'abdomen, et les jambes de fer, et les pieds, et les orteils de fer et d'argile. Bon, on a tous compris ce que ça veut dire. Hein. Il aurait mieux fallu que le plus fragile soit la tête que les pieds. Parce que vous savez qu'on ne repose pas sur grand-chose. Hein. Quelques centimètres carrés, on se tient debout. Mais si on perd la tête, c'est pareil, hein, ça ne va pas non plus. Hein. Vous savez ce qu'il faut ? C'est soit le milieu qui soit solide. Et le milieu, il est solide si véritablement on a un cœur en or. Parce que c'est lui qui conduit la tête et les pieds. Et la statue, elle tient debout à ce moment-là. C'est toute la vision et c'est une parole de connaissance. Tout l'effondrement des empires qui vont se succéder, à commencer par la tête d'or, Babylone. Ensuite, là, l'empire des Mèdes et des Perses qui vont être vaincus par les armées d'Airain d'Alexandre le Grand, qui lui-même sera vaincu par l'Empire romain, les jambes de fer. Et nous, nous sommes dans la période des pieds d'argile mélangés de fer ou de fer mélangé d'argile, comme vous voulez, c'est notre époque. Alors là, si on peut dire que c'est une parole de connaissance, quelque chose qui est une projection dans le temps et dans l'histoire, et pas l'histoire limitée, mais une histoire qui vient jusqu'à nous, je me dis, mais Seigneur, que ta sagesse est grande et que ton intelligence est incommensurable. Mais déjà, Dieu sait tout. Et nous, nous sommes au milieu de cette histoire de Dieu, et c'est l'histoire des hommes. Ouais, l'histoire des hommes. Dans Daniel, au chapitre 2, et au verset 1er, on peut le lire ça quand même. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe, des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler ses magiciens, etc., etc. Et il a eu cette vision naturellement. C'était simplement un petit rappel au passage pour nous montrer que tout cela, eh bien, c'est une réalité. Parole de connaissance, plus une parole de sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il fallait donner aussi la sagesse au roi, et le roi va avoir cette sagesse de gérer les choses. Une deuxième fois, toujours Nebuchadnezzar, c'est la vision nocturne du grand arbre symbolisant l'éviction du roi du pouvoir et son retour à la gloire. Dans Daniel chapitre 4, verset 10, c'est une parole de connaissance et une parole de sagesse. Donc, chapitre 4 et verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, et le roi qui parle. Je demandais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'est levée jusqu'aux cieux, etc., etc. Jusqu'au jour où Dieu va lui apprendre, dans sa vision qu'il reçoit pour lui-même, mais il n'en connaît pas encore l'explication, qu'il a tellement été orgueilleux, tellement présomptueux, qu'il est la tête d'or, qu'il est le roi des rois. Mais quand il y a de l'orgueil qui s'ajoute à tout cela, eh bien un homme s'effondre et s'écroule sous le vouloir de Dieu et le pouvoir de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Mais cette parole va aussi avoir une rédemption quelque part, parce que tu vas tomber, mais moi je te relèverai. Et c'est ce qui va se passer. Parole de connaissance, parole de sagesse. Et j'en finis. Le rêve surnaturel de Daniel, des quatre animaux et autres visions, vous les lirez dans son livre. Il est dit de Daniel qu'il avait en lui, écoutez bien, comme pour Joseph, l'esprit des dieux saints qu'on trouva chez lui. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, un esprit supérieur, de science, de faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. projection de l'histoire de l'humanité jusqu'à nous, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et nous sommes dedans. Dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de la fin des temps, et les visions de Daniel, elles sont là en train de se réaliser devant nos yeux, d'une manière ou d'une autre. Conclusion de la troisième partie, donc de celle que nous avons vue aujourd'hui. Je reprends ce texte que nous avons vu, je crois, la fois précédente, dans Job, chapitre 33, et je vais conclure. Donc, Job, chapitre 33, verset 14. « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. » Parce que si les gens avaient pris, le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui avaient pris véritablement toute la mesure des songes et des visions de ces hommes que Dieu leur a octroyés, que Dieu leur a donnés, ben je crois que le monde serait converti aujourd'hui. Ah oui, on n'y prend pas garde. Je dis que si on tenait compte, nous, les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ à travers 20 siècles de christianisme, si nous tenions compte de cette dimension des songes et des visions et des rêves divins, ben, l'Église ne serait pas, comme elle est aujourd'hui, poussive, excusez-moi, malade, chétive. Alors, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Il nous est parlé d'avertissements, mes frères et sœurs. La parole de Dieu écrite nous avertit. La parole de Dieu inspirée, surnaturelle, révélée, nous avertit aussi. Il nous est parlé également de la confirmation de sa parole sous cette expression. Il met le sceau à ses instructions. Nous connaissons la parole, mais ce n'est pas de la connaître qui est important. C'est de la mettre en pratique. Deuxième point, confirmation de sa parole. Troisième point, détournement du mal. Parce que même sous le couvert de la révélation, de ce surnaturel de révélation dont nous avons parlé ce matin, dans ces états inconscients du sommeil, où Dieu parle par des songes, par des rêves, par toutes sortes de choses, eh bien nous avons besoin de nous détourner du mal. Et or, on peut faire du mal en utilisant et en exploitant ces choses, si elles ne sont pas cadrées, si elles ne sont pas fondées, si elles ne sont pas établies sur la révélation de la parole qui demeure, où Dieu nous en parle, et nous donne à la fois la révélation, mais l'usage que nous pouvons en faire, et de ne pas s'en servir pour en faire des fausses doctrines. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas loin. Dans toutes sortes d'élucubrations de rêveurs, de songeurs, et de gens qui racontent n'importe quoi, qui écrivent des livres, et qui sont donnés en pâture aux chrétiens, parce qu'il y a quelque chose de croustillant, comme une friandise, comme quelque chose qui existe, avec la démangeaison d'entendre des choses agréables, avec de faux docteurs à l'appui, mais qui éloignent le peuple de Dieu de sa dépendance, de son obéissance au Seigneur. Quatrième point, et c'est l'important, vous avez lu avec moi, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ah, vous connaissez l'histoire de Joseph ? Eh, il était un tantinet orgueilleux, Joseph, hein ? Et puis les uns et les autres, vous savez, quand Dieu nous parle, j'ai une vision, j'ai une révélation, j'ai ceci, j'ai cela. Ouah, ça ne vous met pas dans des conditions d'humilité, hein ? Mais l'authenticité d'un véritable songeur, d'un véritable rêveur ou d'un véritable visionnaire, eh bien moi je vais vous dire ce que c'est. C'est l'humilité. Dieu a fait la grâce, un signe de confier à quelqu'un ou à quelqu'une quelque chose, c'est l'humilité. Vous savez, on l'a lu dans la première leçon que nous avons faite, où Dieu dira « Mais j'en veux à ces rêveurs, j'en veux à ces songeurs, j'en veux à ces prophètes qui prennent leur parole pour ma parole. » Oh, il faut que ça soit remis en place, hein, tout ça. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Il y aura un quatrième, si vous désirez entendre la suite, un de ces jours. Quatrième, ça sera les songes et les visions dans le Nouveau Testament. Et là, c'est bien. Parce que ça nous concerne. Parce que nous sommes de ceux, de cette ère, du Nouveau Testament, de cette dispensation, de cette économie, de la grâce et de la foi. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons le remercier et nous allons surtout lui demander qu'il garde au fond de notre cœur cette parole, sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es vivant et tu es fidèle. Oh, merci Seigneur, parce que tu as voulu que nous descendions dans l'examen, Seigneur, de ce que tu nous as annoncé. Oui, nous voulons être comme les Béréens qui examinaient chaque jour les paroles que Paul leur annonçait pour savoir si c'était vrai. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous d'être des hommes sages. Oh, je te rends grâce et je te remercie pour l'authenticité du véritable rêve divin, du songe et de la vision divine, don du Saint-Esprit, don de la nouvelle Pentecôte, parole de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse. Alors, aide-nous, Seigneur, à être des hommes sages. Et nous croyons, Père éternel, que nous pouvons demeurer dans la sagesse, et puis dans ces choses extraordinaires, parce qu'elles sont tellement exaltantes. Oui, c'est vrai, c'est merveilleux de savoir. Mais une chose qui est certaine, garde-nous avec des sentiments de grande modestie devant toi et devant les hommes. Merci Jésus. Amen. Amen.